nous avons commencé à voir la semaine dernière que nous pouvons être freinés dans notre progrès spirituel si nous vivons notre foi d'une manière religieuse. C'est ça qui retient notre attention maintenant depuis la semaine dernière. Il faut progresser sur le plan spirituel, mais il faut régresser sur le plan religieux. Et là, on n'essaye pas de régresser un petit peu, on n'essaye pas de régresser de 2-3 crans en arrière. Il faut qu'on atteigne le niveau zéro de la religion. C'est pour ça que là, le thème qu'on a intitulé cette série « Religion zéro », objectif zéro en ce qui concerne la religion. On avait vu ensemble la semaine dernière que la religion était très exigeante en matière de règles parce qu'elle te dit tu dois faire, tu dois pas faire. Et puis au final, on s'aperçoit que c'est impossible vraiment de respecter chacune de ces règles, même si elles sont fondées sur ce que dit la Bible. Et généralement, elles se contentent de la tradition. C'est-à-dire que pour répondre aux règles, on fait ce qu'on a l'habitude de faire et puis tout est bien. Et donc, on va continuer notre réflexion, aller un peu plus loin. Alors, je précise évidemment que la réflexion qu'on est en train d'avoir ensemble en ce qui concerne la religion, c'est pas fait pour débusquer les religieux qui sont autour de nous ou les religieux qui pourraient se trouver dans une autre église que la nôtre. Si on voit ça ensemble, c'est pour éviter que les uns et les autres, on soit pris au piège de la religion. On a commencé à voir ensemble la dernière fois que ça pouvait nous concerner tous, les uns et les autres. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on aborde ce thème ensemble, samedi après samedi. La deuxième pensée que je voudrais partager avec vous, c'est que l'évangile est centré sur Jésus, alors que la religion est centrée sur soi. La question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce que on est centré ou est-ce que je suis centré sur Jésus ? Est-ce que je suis centré sur Christ ? Ou est-ce que je suis centré sur moi. Et on va voir un premier point, tout d'abord, c'est que, premièrement, la religion accorde de l'importance aux apparences. Et pour ce faire, je voudrais revenir avec vous dans ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. On avait commencé à le lire ensemble et on va continuer la lecture. On avait lu les 4 premiers versets et maintenant on va reprendre la lecture au verset 5. Matthieu 23, verset 5. Vous vous souvenez que Jésus parle des gens religieux de son époque. Il prend à partie les scribes et les pharisiens. C'était les gens les plus religieux de l'époque de Jésus. Et on voit qu'il n'est pas tendre. Et ça nous montre comment Jésus considérait la religion, comment était considérée par Jésus la manière de vivre les choses quand on les vivait religieusement. Et on va continuer la lecture. Il continue de parler des scribes et des pharisiens. Verset 5, il dit « En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. » C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange. Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler rabbi par les gens. Pour vous, il parle à ses disciples, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père Céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur ou guide, on pourrait traduire par guide, car vous n'avez qu'un directeur ou qu'un guide, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. La religion accordant de l'importance au faire, comme on a vu la semaine dernière, c'est facile de se laisser séduire par la valeur attribuée aux actes eux-mêmes et par l'apparence. C'est ce dont on va parler ce soir. On a vu tout à l'heure, si tu peux remettre là verset 5, que les religieux agissent pour se faire remarquer. C'est ça leur premier objectif. Quand ils vivent leur foi, ils veulent le faire pour se faire remarquer. Et c'est ce qu'indique chacun des exemples qui sont pris par Jésus. Il évoque là des pratiques qui étaient observées dans le judaïsme de son temps et qui sont d'ailleurs toujours respectées par les juifs orthodoxes, les juifs religieux d'aujourd'hui. Il parle tout d'abord de larges phylactères. Pour se faire remarquer, ils font bien large leurs phylactères. Alors les phylactères, je vous explique en deux mots ce que c'est que les phylactères parce que c'est peut-être pas quelque chose de très commun. Qui a des phylactères chez soi? Vous avez des phylactères dans vos bandes dessinées? Ça, c'est comme ça qu'on appelle les bulles dans lesquelles... Voilà, je crois que là, j'ai appris quelque chose là à certains. Les bulles dans les bandes dessinées s'appellent des phylactères, mais ce n'est pas de cela dont il est question. Les phylactères, ce sont des petites boîtes en cuir qui contiennent de minuscules rouleaux sur lesquels sont inscrits des versets de la Bible. Et les Juifs placent ça sur leur front et sur leurs bras. Il y a une photo qui va vous permettre de voir à quoi ça correspond. Vous voyez, c'est des petites boîtes comme ça. Et quand les Juifs sont en prière, ils le mettent sur leur front et sur leurs bras. C'était la pratique à l'époque de Jésus. C'est une pratique qui est toujours observée aujourd'hui, alors pas par tous les Juifs, mais par les Juifs les plus respectueux de leur tradition. Et ces phylactères, ces petites boîtes, elles étaient confectionnées pour appliquer une prescription qu'on trouve dans la loi, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, vous pourrez aller voir. Et il est dit, cette prescription, elle dit de lier les commandements de Dieu comme un signe sur ses mains. Et ce même passage dit que les commandements de Dieu sont comme un fronton entre les yeux. C'est une façon imagée d'encourager à se souvenir constamment de la volonté de Dieu, mettre le phylactère ici sur sa tête pour se souvenir des commandements. Et puis, c'est une façon aussi de dire de façon imagée qu'on est appelé à constamment, ou les Juifs étaient constamment appelés à mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'il est question là des mains, des bras. Et les pharisiens et les scribes, voulant appliquer cette prescription littéralement, on se souvient que leur désir c'était de mettre en pratique la Torah, la Bible, la loi de Moïse le plus précisément possible, eh bien ils se confectionnaient des phylactères et puis ils venaient comme ça pour venir prier. Sauf que dans le texte que nous avons lu ensemble, il est dit que les scribes et les pharisiens avaient des phylactères plus larges. Ils venaient avec des phylactères qui étaient plus gros que les autres juifs quand ils venaient prier. Ils arrivaient avec une énorme boîte sur la tête, une énorme boîte sur le bras, et ils frimaient avec ça. C'est-à-dire, regardez comment les commandements de Dieu, je les prends au sérieux. Voilà, quand il y avait un groupe de pharisiens qui arrivait, ils arrivaient tous avec des grosses boîtes sur la tête. C'est le gang des phylactères qui s'amenait. Et puis, il y a un autre exemple aussi qu'il prend, c'est les franges. Il dit que les scribes et les pharisiens avaient aussi de longues franges aux vêtements. Ça fait référence à la pratique aussi, à l'époque, de placer des cordons de couleur bleue sur le bord du vêtement, aux quatre coins du vêtement. Ça aussi, c'était prescrit par la loi de Moïse. On trouve ça dans Nombre, au chapitre 15. Et les cordons qui pendaient des vêtements, ça servait à symboliser, là aussi, les commandements de Dieu. Certainement que le bleu, ça symbolise justement les cieux, là où se trouve le trône de Dieu. C'était vraiment, encore une fois, une façon de se souvenir qu'il y avait la volonté de Dieu à appliquer à chaque moment. Et Jésus est en train de dire, mais les franges des scribes et des pharisiens étaient plus longues que les autres. Voilà, ça c'est un autre exemple sur la photo, vous voyez. Aujourd'hui, les juifs religieux ont ce type de franges qui pendent de leurs vêtements. Et les scribes et les pharisiens en avaient des plus longues que les autres. Et c'était encore une manière de se faire remarquer, de dire, regardez, moi, les commandements de Dieu, je les prends vraiment au sérieux. Plus que le désir de manifester leur foi en Dieu, ce qu'ils recherchaient, c'est ce que Jésus fait entendre, c'est ce qu'ils recherchaient en se faisant remarquer, c'était d'inspirer le respect. C'était de susciter l'admiration, d'être reconnus aux yeux de tous pour leur piété. Et on voit au verset 6 et 7 que leurs aspirations se concrétisaient quand ils avaient les places d'honneur, quand ils étaient invités à des festins, le premier divan dans les festins. Alors, ils parlent de divan parce qu'à l'époque, on mangeait couché. C'était la pratique. Aujourd'hui, on mange assis. À l'époque, ils mangeaient couché. Ils recherchaient, leurs aspirations étaient pleinement comblées lorsqu'on leur donnait les premiers sièges dans les synagogues. Ça fait certainement allusion au siège qui était au premier rang et sur lequel ils étaient assis en attendant que le chef de la synagogue leur dise, viens, c'est à toi de prêcher maintenant parce que tu connais si bien la loi, tu as un tel souci d'appliquer les commandements que tu vas nous partager quelque chose certainement de très intéressant, de très profond. Leurs aspirations étaient comblées lorsqu'ils étaient salués sur les places publiques, lorsqu'on les reconnaissait. On disait, ouais, un tel, lui, il applique bien la parole, il connaît bien la parole. Ou alors, ils aiment aussi s'entendre appeler Rabbi, et ça leur plaisait énormément. Rabbi. Rabbi, ça veut dire mon maître. Et c'est tiré d'un mot hébreu, je vous en avais déjà parlé en début de saison. Le mot rab en hébreu, ça veut dire grand. Donc quand on appelait quelqu'un rabbi, ça voulait dire qu'on le reconnaissait comme étant supérieur aux autres. Et ça, ils aimaient bien, les pharisiens et les scribes. Au travers de leur piété, au travers de leur gros phylactère et de leur longue frange, ce qu'ils recherchaient, leur objectif, c'était ça. La logique qui animait les scribes et les pharisiens, c'est « je fais pour être remarqué afin d'être félicité et honoré ». Ils exerçaient leur foi pour être aimés et pour être appréciés des autres. Tu tombes dans la religion quand tu es plus motivé par ton intérêt personnel que par le désir d'honorer Dieu. Tu tombes dans la religion quand, dans ce que tu fais, tu le fais plus pour te faire plaisir à toi que de faire plaisir à Dieu. Elle est là, la subtilité. Et je parle vraiment de subtilité, parce que la religion, elle n'arrive jamais avec des gros sabots comme ça. Parce que souvent, en religion, on se dit, ouais, religion, c'est les grandes liturgies, c'est les grandes cérémonies. Mais non, la religion, elle est beaucoup plus subtile que ça. Et là, c'est subtil parce que ce qui est mis en avant, c'est le désir de faire les choses conformément à la volonté de Dieu. Encore une fois, le coup des phylactères et des franges, on peut trouver ça, ça peut être justifié en lisant la Bible. Mais la vraie motivation, c'est d'être populaire. C'est de pouvoir bénéficier de privilèges, d'honneurs, de titres, de responsabilités. La vraie motivation, c'est en réalité de faire les choses pour soi. C'est pas centré sur Christ, c'est pas centré sur Dieu, c'est centré sur soi. Parce que la religion, de toute manière, elle ramène toujours à soi, tout le temps. Comme elle est fondée sur le faire, elle a tendance à valoriser celui ou celle qui fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et de cette manière-là, elle apporte une solution qui est à la fois hypocrite et inefficace au besoin fondamental que nous avons les uns et les autres d'être aimés. Évidemment, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en a un d'entre vous qui va arriver le samedi soir avec un phylactère sur la tête. Je serais vraiment très surpris. Ou alors peut-être qu'il y a une mode qui va partir ce soir, j'en sais rien, on verra. J'imagine mal qu'il y en a un ou une d'entre vous qui va arriver un samedi soir avec de longues franges pour faire entendre qu'il observe la volonté de Dieu. Non, je pense pas que ça va se passer. Ça se passe comme ça, généralement. Ça se passe autrement. On a trop rien de visible dans notre foi. Encore, si on repassait quelques années en arrière, quand on venait avec la Bible, on aurait pu venir avec une grosse Bible pour faire comprendre à ceux qui sont autour de nous que voilà, on accorde beaucoup d'importance à la parole de Dieu et qu'on l'applique. Bon, maintenant, la Bible, elle est au mieux dans le téléphone, donc on ne peut plus trop frimer avec ça, sauf de venir avec l'iPhone 12, le truc énorme, là, sous ton bras, et puis là, ok. Non, on a trop rien de visible. Je crois que ça s'exprime plutôt dans notre manière de faire les choses, dans notre manière d'agir. Tous, on cherche à se distinguer pour susciter l'amour des autres. Tous. Il y a un mécanisme comme ça qui est en nous. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser nos talents, d'utiliser nos qualités, d'utiliser nos compétences qui vont nous permettre de nous démarquer des autres pour pouvoir être performants. Et c'est ce qui se passe quelquefois dans le cadre de la vie chrétienne. Dieu nous a donné des talents aux uns et aux autres. C'est quelque chose qui vous a souvent été dit ici, ça nous a été même rappelé lorsque Sandrine a parlé du service. Quand on se met au service de Dieu, quand on s'engage pour Dieu, on a des choses que Dieu a mis en nous. Quand il nous a créés, il a placé en nous des talents, des choses qui sont appelées à s'exprimer. Et ce qu'il a mis en nous, c'est vraiment destiné à le glorifier. Et on est appelé à exercer ses talents, ses compétences pour le bien de ceux qui nous entourent et pour glorifier Dieu. Et ça, c'est extrêmement épanouissant. Vraiment, quand tu exprimes ce que Dieu a mis en toi, lorsque tes compétences et tes qualités, tu les mets au service des autres et que ça touche, que ça a du résultat, c'est très épanouissant. Parce que d'une certaine manière, on fait ce pourquoi nous a destinés. On fait ce pourquoi Dieu nous a créés. Et chacun d'entre nous ici, vous avez quelque chose, vous avez une compétence, vous avez un talent. Même si des fois on a du mal à en prendre conscience, même si c'est difficile à croire parce qu'on n'a pas trop confiance en soi, les uns et les autres, on est dotés de compétences. Mais ces talents-là, je peux les utiliser pour moi. Je peux les utiliser à mon profit. C'est notamment ce qui se passe dans la parabole du fils prodigue. Vous vous souvenez de cette histoire que Jésus a racontée ? C'est une des histoires les plus connues, une des paraboles les plus connues de Jésus. Et au tout début de la parabole du fils prodigue, c'est au chapitre 15, Luc 15, les tout premiers versets, vous vous souvenez, il y a le fils cadet qui va voir son père et puis qui lui dit « Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Donne-moi là cet argent. C'est une façon de dire à son père, bon là maintenant je veux plus de relation avec toi, je te considère comme mort et tu me donnes la part d'héritage qui me revient. Et qu'est-ce qu'il va faire de cette part d'héritage? Qu'est-ce qu'il va faire de l'argent qu'il reçoit? Il va l'utiliser comme il a envie. Il va l'utiliser pour son plaisir. Dans le texte, il est dit qu'il va partir dans la débauche, il va partir dans le désordre. Il avait plein de richesses et il les utilise pour lui, comme il l'entend. Eh bien, de la même façon, toutes les richesses que Dieu m'a données, toutes les richesses que Dieu a mis en moi, ses talents, ses compétences, je peux les utiliser à mon seul profit, de la même manière qu'a fait le fils cadet dans l'histoire dans cette parabole. Et c'est ce que font les gens qui ne suivent pas Dieu, parce qu'il n'a pas mis que des compétences et des talents que chez les chrétiens et chez les chrétiennes. Tout le monde est doté de compétences et de talents. Et ceux qui ne suivent pas Dieu, ils les expriment, mais ils ne le font pas pour Dieu, parce qu'ils s'en moquent de Dieu. Ils le font pour eux-mêmes, ils le font dans leur profit, dans leur intérêt. Vous avez des hommes d'affaires, par exemple, ils ont du génie pour gagner de l'argent, ils ont un génie dans l'entreprise, dans l'organisation, et ils vont le faire à leur profit. Et il y a les sportifs, ils vont le faire pour leur gloire personnelle, toutes les compétences qu'ils ont sur le plan physique, ça va leur permettre de briller. Et ils vont faire ça pour leur profit personnel. Les artistes, soit des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses, des peintres, des dessinateurs, tous ces talents qu'ils ont et par lesquels ils peuvent exprimer des choses extraordinaires, ils vont le faire pour eux. Moi, je me dis à chaque fois, quand je vois Gad Elmaleh, parce que Gad Elmaleh, je crois que c'est celui que je préfère dans le showbiz. Quand je regarde ces spectacles, je rigole tout le temps, mais je pense que c'est un des sinon l'artiste le plus apprécié en France. Vous aimez bien Gad Elmaleh? Il y a quelqu'un qui déteste Gad Elmaleh là? Non, personne ne le déteste, je crois que tout le monde l'aime bien. Et c'est vrai, il a un regard qu'il pose sur la société, la manière dont il parle de la famille, du monde et tout ça, c'est vraiment marrant, c'est vraiment drôle. Et je me dis, mais quel talent extraordinaire! Il a beaucoup travaillé pour ça aussi, mais il y a quelque chose qui est là en lui. Et imaginez quand même que s'il faisait ça pour Dieu, là, il réunirait des centaines et des centaines de personnes qui viendraient l'écouter et il pourrait vraiment donner quelque chose de plus profond encore, quelque chose de plus puissant. Il pourrait vraiment amener les gens à avoir de l'espérance. Il pourrait porter un regard rigolo sur la société d'aujourd'hui, mais il pourrait apporter aussi une solution en parlant de Dieu, en parlant de Jésus. Et tout ce que Dieu a placé en lui, ses compétences, il pourrait vraiment le faire pour Dieu. Ce serait super, hein? Vous imaginez Actival, un grand Actival sur la Pentecôte, comme on a fait dans les années, on rassemble les jeunes de la région, et puis au lieu d'un concert le soir, Gad Elmaleh. Ce serait Gad Elmaleh qui viendrait. Alors il viendrait, et puis bon, on rigolerait, mais en même temps, il nous encouragerait, il pourrait vraiment communiquer des choses qui seraient beaucoup plus profondes que ce qu'il communique. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de personnes, quand on regarde autour de nous, qui utilisent leur talent, mais des fois, je me dis, mais quel gâchis. Là, on les voit, ils sont là, ils rigolent ensemble dans des émissions de télé, mais il y a tellement de vulgarité. Ils ont le pouvoir de faire rire, ils ont le pouvoir de faire passer des messages au travers de leur sketch, de leur numéro, et puis ça tombe dans la vulgarité, ou alors dans leurs chansons, c'est des messages qui sont désespérants, ils sont en train de se lamenter parce que le monde tourne mal, t'as fini, la chanson elle est belle, mais au bout du compte, t'as envie de te suicider. T'as des artistes, ou alors c'est la légèreté, ils vont te dire « profite de la vie, vas-y ». Tu te dis, mais autant de talent, être capable de faire de belles musiques, de belles chansons, être capable de jouer la comédie comme ils le font, et puis le message... Ça va pas plus loin que ça. C'est du gâchis. En fait, ils me font penser à ce gars-là. Powell Fajdek. Tout le monde connaît Powell Fajdek? Non. Ben non. Powell Fajdek, c'est un Polonais qui est champion du lancer de marteau. C'est lui qui a gagné au championnat du monde d'athlétisme à Pékin l'année dernière en 2015. Le lancer de marteau. Alors ça, c'est encore un sport. Il y a certains sports, je vous avoue, je m'interroge beaucoup. Le lancer de marteau. Qui le premier a eu l'idée un jour de lancer son marteau et qui a donné envie à un autre de dire « Attends, je vais essayer de lancer le mien plus loin que le tien. » Je pense que c'était deux forgerons qui s'ennuyaient. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils disaient « Attends, on va essayer en tournant maintenant. » Enfin bon, qu'importe, c'est une digression. Lui, il est champion donc du monde et du lancer de marteau. Et en 2015, donc c'était à Pékin qu'avait lieu le championnat du monde, il avait bien fêté sa victoire le soir de la compétition, tellement bien fêté la victoire qu'il était ivre mort. Il était rond comme une queue de pelle, comme on dit chez nous. Il était ivre mort et il a fallu évidemment qu'il rentre à son hôtel. Et il a tant bien que mal hélé un taxi. Il est rentré dans le taxi et puis au moment où le chauffeur de taxi l'a laissé devant la porte d'hôtel, il commence à chercher son portefeuille. Et puis plus rien dans le portefeuille. Il avait plus de monnaie, il avait plus d'argent. Incapable de pouvoir payer le chauffeur de taxi, incapable de pouvoir payer la course. Alors ce qu'il a fait, Powell Fajdek, il a mis la main dans sa poche et il a sorti la médaille qu'il avait gagnée au lancer du marteau. Et pour payer la course, il a insisté pour que le chauffeur de taxi prenne sa médaille en or. Puis il est reparti. Le lendemain, il s'est réveillé avec un mal de crâne pas possible. Il a cherché sa médaille partout. Il n'a pas compris. Il a appelé la police. Et la police a fait une enquête et a compris comment, où était passée la médaille. Mais il croyait qu'on était venu dans sa chambre pour la voler. Non, il avait donné sa médaille en or pour payer une course de taxi. Et vous avez des gens comme ça qui ont des richesses, mais qui les gâchent. Des richesses, mais ils ne les utilisent pas à la hauteur de ce que c'est vraiment. Ils n'utilisent pas leur talent pour ce dont ils sont faits. Normalement, ce serait pour faire plaisir à Dieu, pour honorer Dieu. Alors, les artistes, tous ces gens-là, ils disent que leur travail, c'est de donner du plaisir. Et aujourd'hui, même être un artiste et faire un spectacle, c'est devenu un acte de résistance, vous avez vu, hein. Aller au spectacle, parce que c'est résister contre le terrorisme. Ok, bon, très bien. Ah, ils disent ça, ils disent on est là pour donner du plaisir, on est là pour résister. Mais ils le font aussi pour eux, ils le font pour leur gloire, ils le font pour la notoriété, ils le font pour les compliments, comme les scribes et les pharisiens de l'époque de Jésus. Et c'est la même chose qui peut se passer en tant que chrétien. On a l'impression là que de l'extérieur, tu fais les choses pour Dieu, ça en a tout à fait les apparences, mais tu les fais dans ton intérêt. Tu peux avoir la capacité d'écouter les gens, tu peux avoir la capacité de les aider, tu peux avoir la capacité de te rendre disponible pour être là, pour répondre aux besoins, pour vraiment répondre aux besoins des personnes. De vue de l'extérieur, tu es vraiment là pour accompagner les gens. Mais en réalité, ta motivation, elle peut être complètement différente. Il y a quelques temps de cela, c'était un dimanche. La réunion avait commencé, même les chants avaient commencé, elle avait commencé depuis 5 ou 10 minutes, et puis il y a un gars qui vient, j'étais au premier rang, et puis il vient me voir et puis il me dit « Est-ce que l'église, elle a prié pour un tel ?» Parce qu'un tel, il est à l'hôpital. Alors, je dis « Écoute, si tu ne me demandes pas de prier pour la personne, on peut pas savoir, on peut pas attendre que le Saint-Esprit nous révèle tout non plus. » Puis il me dit vous n'êtes pas allé lui rendre visite à l'hôpital? Parce que moi, je suis allé à l'hôpital lui rendre visite. En plus, l'hôpital, il était à 150 km, hein, c'était pas Angers. Moi, je suis allé lui rendre visite et puis j'ai prié pour la dame. Et je dis, très bien, tu as fait ce que tu avais à faire, pas de problème. Mais vous voyez la motivation derrière? C'est vrai, je suis allé voir quelqu'un, je l'ai soutenu, je l'ai accompagné, mais c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est pas bon. Enfin, là, c'était gros. Je veux dire, les apparences, c'était même pas sauvegardé. Mais c'était évident que c'était pour que je sache qu'il était allé prier pour la dame à l'hôpital. Tu peux avoir la capacité de concevoir des projets. Tu peux regarder autour de toi, peut-être même voir dans l'église, dire tiens, il manque ça, il y aurait besoin de ça. Et puis tu mets quelque chose en place. Et ça peut répondre à un vrai besoin. Mais si tu le fais pour montrer que tu es capable, si tu le ferais pour dire « moi, je peux le faire », personne ne le fait, mais moi, je le fais. Moi, vu de l'extérieur, je peux me dire « tu réponds à un besoin ». Et en réalité, la motivation, elle est très différente. Je le fais pour moi. Capable de faire de la musique, capable de jouer d'un instrument de musique, capable de chanter. Là aussi, c'est tellement important ce rôle. Je vous remercie encore, vraiment, je vous remercie encore du moment qu'on a vécu ensemble, comme la semaine dernière. C'est tellement important. En plus, le dernier chant qu'on a pris, enfin moi, je décolle au septième ciel, moi, à chaque fois que j'entends ce chant-là, je suis dans la présence de Dieu. Et c'est tellement important, mais en même temps, la motivation à l'intérieur, il peut y avoir que de l'apparence. Tu peux être là, louer le Seigneur, tu peux aller me chercher, me prendre par la main et m'emmener là auprès de Dieu. Et tu peux dire « Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur », comme on l'a chanté, mais en réalité, à l'intérieur de ton cœur, tu es en train de dire « Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à moi la gloire et l'honneur ». Tu n'es pas en train de dire « Jésus, je t'aime », tu es en train de dire à l'auditoire « Aimez-moi ». Les apparences, nous on peut voir simplement ce qu'il y a devant, mais ce qu'il y a dans ton cœur, là, il n'y a que toi qui sais. Tu parais faire les choses pour Dieu, tu parais faire les choses pour Christ, mais tu l'es fait pour toi. Elle est là la limite où tu tombes dans la religion. Deuxième point que je voudrais voir avec toi, c'est que la religion accorde plus de valeur à ce que tu fais qu'à ce que tu donnes. On va lire un peu plus loin dans Matthieu 23, on va prendre à partir du verset 16, et voilà ce que Jésus dit. Il parle encore aux scribes et aux pharisiens, il dit « Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites « Si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance ? L'or ou le temple qui rend cet or sacré ? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. » Verset 19. « Aveugle. Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée ? Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui se trouve dessus. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par Dieu qui y siège. » C'était une pratique très commune de faire des serments. Faire un serment, c'est prendre Dieu à témoin pour garantir que sa parole est vraie. C'est ça un serment. Alors Jésus, lui, il a enseigné à ses disciples que les serments étaient inutiles, à ses disciples à lui. En tant que chrétien, tu vis toujours en relation avec Dieu, tu es toujours dans la vérité. C'est ce que je résume ce que Jésus a enseigné à ses disciples au début de l'évangile de Matthieu. Ce qui fait que quand tu t'engages, ta sincérité est suffisante. Tu n'as pas besoin de prendre Dieu à témoin parce que Dieu est toujours témoin de tes actes, de tes pensées. Donc ta parole, elle est suffisante et elle rend inutile d'invoquer Dieu pour une chose en particulier ou à un moment en particulier. Ça, c'est la pensée de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus. On peut te faire confiance parce que tu es toujours en relation avec Dieu. Et là, Jésus critique l'enseignement des scribes et des pharisiens. Parce que les scribes et les pharisiens enseignaient que la parole était vraiment engagée si l'on jurait par ce que l'on donnait au temple, plus que si l'on jurait par le temple. Vous voyez la différence ? Vous saisissez la différence ? Le temple de Jérusalem, dont il est question dans le texte, là, c'était le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et le temple, évidemment, renvoie à la personne de Dieu lui-même. Dieu n'habitait pas dans le temple, il n'est pas réduit à une habitation. C'était un symbole, le symbole de la présence de Dieu. Et l'autel aussi, dont il est question dans le texte, c'est le symbole de la relation avec Dieu. Parce que sur l'autel, tu offrais le sacrifice qui allait obtenir le pardon de ton péché. Donc, c'est ce qui permettait à la relation avec Dieu de reprendre ou de continuer. Sur l'autel, tu offrais les premiers produits de la récolte aussi. C'était une façon de remercier Dieu d'avoir permis au blé d'avoir poussé dans ton champ. Ça symbolise la relation avec Dieu. Mais l'or du temple, parce que les pharisiens disaient c'est plus important de jurer par l'or du temple que par le temple lui-même. L'or du temple, c'est l'argent qui était donné en offrande. C'est ce que les Juifs prenaient sur leurs économies pour le donner, et c'était placé dans le trésor du temple. L'offrande qui était déposée sur l'autel, c'était l'animal qui avait été pris dans le troupeau, ou alors c'était des épis qui avaient été coupés dans le champ. Et pour les pharisiens, ça voulait dire que si c'était plus important de jurer par ce qui était offert, ça voulait dire que ce qui était donné avait plus de valeur que celui à qui on donnait. Ça va ? C'est bon ? Et c'est ce processus-là qui s'engage quand tu fais les choses pour obtenir l'approbation des autres. Tu accordes plus de valeur à ce que tu fais pour Dieu qu'à Dieu lui-même. À la religion, c'est subtil, hein. Mais là, on a besoin d'entendre les paroles de Jésus pour bien comprendre comment tout ça se met en place. Vous avez certainement tous entendu parler de Pablo Picasso, un des peintres les plus célèbres, certainement, effectivement, d'origine espagnole, mais qui a passé pratiquement toute sa vie en France. Et Pablo Picasso fait partie de ces peintres qui étaient reconnus de son vivant. Ça veut dire que lorsqu'il était vivant, il pouvait vendre des tableaux qui se vendaient des milliers et des milliers d'euros, peut-être même déjà des millions à l'époque, probablement. Quelqu'un de très apprécié et de reconnu. Parce qu'il y a tellement de peintres, il y a tellement d'artistes qui ont été reconnus qu'après leur mort. Mais lui, ça n'a pas été le cas. Et il pouvait gagner vraiment beaucoup d'argent en vendant ses œuvres. À tel point que quand il allait au restaurant, il payait l'addition en faisant un dessin sur la nappe. C'est pour te dire quand même qu'il y avait beaucoup de valeur qui était attribuée à ses dessins. Et puis un jour même, il était allé au restaurant et il fait un dessin sur la nappe, comme il avait l'habitude de faire, et le restaurateur lui dit « Maître, vous avez oublié de signer le dessin. » Et Picasso lui a répondu « Mais je suis venu manger ce soir, pas acheter le restaurant. » C'est pour vous dire qu'avec une simple signature, s'il avait signé son dessin, il aurait pu avoir assez d'argent pour acheter le restaurant. Et Picasso, il avait la réputation d'être un peu avare. Et ce qu'il faisait, quand il devait donner un chèque, quand il devait donner une somme d'argent, il signait le chèque, mais il faisait un petit dessin sur le chèque. Comme ça, il espérait que la personne, comme elle avait une œuvre de Picasso entre les mains, il disait, il va pas le mettre à la banque. C'était assez malin, quoi. Il espérait que le chèque soit pas encaissé. Et bah, tu vois, c'est ça. C'est ça la religion. Tu peux utiliser la richesse que Dieu t'a donnée sans que ton objectif soit d'enrichir les autres, comme Picasso. Tu peux exercer tes talents tout en les retenant pour toi. Tu donnes, mais ton espoir, c'est d'abord d'en retirer un bénéfice pour toi. Et ce que tu fais a alors plus de valeur que ce que tu donnes, ce que Jésus dénonçait. Mon objectif en tant que disciple, c'est d'utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour servir les autres. Mon objectif en tant que disciple, c'est d'utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour témoigner de la puissance de Dieu, pour témoigner de l'amour de Dieu. Je suis appelé à utiliser ces dons que Dieu a placés en moi, cette richesse, pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand j'exerce mes dons, que ce soit la musique, que ce soit la prédication, que ce soit l'organisation, que ce soit n'importe quelle autre chose, que ce soit l'aide, l'accompagnement, quand je manifeste et j'exprime ces dons spirituels, je fais passer quelque chose de spirituel. Je fais passer quelque chose qui vient de Dieu. Ça ne repose pas seulement sur ce que je sais faire. Ça, je me mets à la disposition de Dieu pour qu'au travers de moi, Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse parler, pour que Dieu puisse œuvrer. Si j'ai là, si je suis disponible pour aider les gens, il va y avoir une parole et une disponibilité qui fait que la personne va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ça mon objectif en tant que disciple. Et lorsque nous agissons, lorsqu'on se met entre les mains de Dieu là pour exprimer nos talents, pour exprimer ce qu'il nous a lui-même donné, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on doit faire les choses. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pas à m'en glorifier, puisque j'exprime ce que Dieu m'a donné, et Dieu s'en sert pour toucher les gens. Dieu s'en sert pour parler aux gens, pour bénir les gens. J'ai pas à m'en glorifier parce que j'exprime ce que Dieu m'a donné. Et c'est lui qui agit au travers de moi. C'est ça ma vision en tant que disciple que je dois avoir. On est appelé à viser l'excellence dans ce que nous faisons. Si nous faisons les choses pour Dieu, il faut bien faire les choses pour lui. Mais si on fait les choses avec excellence, il faut que notre objectif soit clair. Il faut que mon objectif soit de glorifier Dieu, pas de me glorifier moi. La prétention à l'excellence peut nourrir notre désir de briller et de nous placer au-dessus des autres. Et si c'est le cas, on peut se montrer très condescendant. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti de la part du gentil monsieur qui est venu me parler l'autre jour, là. Très condescendant. Voilà, moi, ce que je fais. Voilà ce que moi, je sais faire. Et que les autres ne savent pas faire ou ne font pas aussi bien que moi. Je peux faire sentir que j'ai pas trop besoin des autres ou que les autres ils sont pas à mon niveau. Rabbi, grand, rab, le grand, supérieur. On peut se sentir à part, hein, comme ça, facilement. On utilise ce que Dieu nous donne, mais finalement, on se met un peu au-dessus des autres. Et Jésus a dit que personne n'était au-dessus des autres. Si on revient au texte qu'on a vu tout à l'heure, entre les versets 8 et 12, Jésus a dit, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de père, il n'y a pas de directeur ou de guide parmi vous, tout ça, tous ces titres-là, ça n'a pas de valeur, parce que vous êtes des frères, tous vous êtes à égalité. Alors vous n'avez pas à vous placer au-dessus des autres, même et surtout si vous exprimez ce que Dieu vous a donné. Ce qui me grandit, ce n'est pas de m'élever au-dessus des autres, c'est de m'abaisser pour servir les autres. Versets 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quand Dieu touche quelqu'un au travers de toi, là tu en ressors grandi. C'est là vraiment que tu en ressors grandi. Et même les gens, ils peuvent venir vers toi et te dire « Ah, merci, parce que là, vraiment, ça m'a fait du bien. Là, le chant que tu as fait, la manière dont tu as joué ou ce que tu as partagé, ça m'a touché. Dieu a fait quelque chose là quand j'étais à l'écoute de ta parole. » Mais en fait, tu es heureux parce que c'est Dieu qui a agi. Il y a quelque chose de profond et de spirituel qui est inimitable. Et ça, c'est le vrai bonheur. Et le vrai épanouissement dans notre engagement aux uns et aux autres, c'est ça. C'est cette dimension spirituelle. C'est Dieu qui fait les choses. Si j'agis pour être aimé, ça c'est d'ailleurs c'est un bon indice. Si j'agis pour être aimé, je ne vais pas supporter d'être remis en cause. Je ne vais pas supporter d'être critiqué. Je ne vais pas supporter une remarque que l'on pourrait faire à mon propos ou à propos de ce que je fais, et notamment de ce que je fais pour Dieu. C'est un bon indice de savoir quelle est notre vraie motivation, sur qui on est centré, sur Christ ou sur nous-mêmes. Si je suis critiqué, je vais me sentir rabaissé, parce que les critiques vont remettre en cause mes compétences et elles vont menacer mon image du gars ou de la fille qui assure, qui sait faire, qui est performant. Et ça peut avoir un impact très négatif dans mon cœur. Je peux être furieux. Non, mais de quel droit il me dit ça? Et puis de toute façon, il ne sait pas de quoi il parle. Je peux être furieux, là, vraiment avoir cette colère. Ou alors, le contraire, je peux être carrément brisé. Carrément brisé. Par contre, si je suis en Christ, si ma vraie motivation, c'est celle du disciple, de faire les choses pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Alors, c'est sûr que les critiques, bon, elles ne sont jamais vraiment agréables. Mais elles ne vont pas me remettre en cause. Ça ne va pas avoir du tout le même effet parce que mon identité ne repose pas sur la valeur que je veux m'attribuer, mais sur la valeur que j'ai pour Dieu. Et je donne parce que je suis aimé, pas parce que je veux être aimé. On a vraiment tout intérêt à saisir pleinement la dimension spirituelle de notre engagement, vraiment. Sinon, de toute manière, il n'y a pas d'autre solution possible que de tomber dans la religion. Pour éviter de tomber dans les apparences et de se valoriser plutôt que de valoriser Dieu, il n'y a pas 36 manières de faire. Il faut pleinement prendre conscience et pleinement vivre l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. Pour une raison ou pour une autre, notre niveau affectif ou notre niveau d'amour, il peut être déficient. Ça peut être parce que tu as eu des difficultés relationnelles avec tes parents et tu n'as pas eu l'impression d'être apprécié ou aimé. Ça peut être dû au fait qu'il n'y avait pas de père à la maison ou qu'il n'y avait pas de mère à la maison. Ça joue hein, sur notre affectif, sur notre niveau d'amour. Ça peut être dû au fait que tu t'es pas senti accepté par ton entourage à l'école parce que tu étais trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, trop ceci ou pas assez cela. Et ça touche parce qu'on se sent pas accepté, on se sent pas aimé comme on aimerait. Ça peut être dû au fait qu'on n'a pas été encouragé aussi. Dans la famille, il y a des fois des comparaisons qui sont faites et quand ça se fait à notre détriment, ça nous touche aussi. Et ça joue sur notre niveau d'amour. Des paroles dévalorisantes du genre « mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être dû au fait que t'as pas eu des résultats brillants à l'école, ou que les études, ça a pas fonctionné comme tu voulais. Et puis tu te sens pas à la hauteur. Tu sens pas que t'es au même niveau que les autres. Et l'estime que tu as de toi est peu élevée. Et ça te conduit à compenser. En recherchant l'approbation des autres. En recherchant l'amour des autres. En se faisant remarquer d'une manière ou d'une autre pour attirer le regard. Et pour pouvoir remplir là où il y a eu du déficit. Il faut que tu prouves que tu es digne d'être aimé. Et ça manifeste la crainte naturelle d'être rejeté. Et le désir naturel aussi d'être accepté et aimé. Et le groupe de jeunes ou l'église peut te servir de tribune pour te faire remarquer et te valoriser sous couvert de faire les choses pour glorifier Dieu. Et Jésus nous a dit que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire les choses. Mais c'est un mécanisme qui peut se mettre en place et qui nous pousse vers la religion. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit soit au milieu de nous ce soir et qu'il agisse en nous, parce que on a toujours besoin de revenir à cette pensée fondamentale, à cette réalité, à cette vérité que Dieu est amour et qu'il nous a créés les uns et les autres par amour. On est sur la terre pour être aimé. Parce que Dieu est amour et qu'en nous créant, il nous a créés par amour. Dieu ne peut pas faire autrement que de t'aimer. Il est pleinement amour. Ce qui fait que s'il t'a amené à l'existence, c'est d'abord pour t'aimer. T'aimer parfaitement. D'un amour éternel, d'un amour sans limite. Il t'aime pour ce que tu es, sans condition. Et la joie de Dieu, c'est d'être en relation avec toi. La joie de Dieu, c'est d'être en relation avec moi. Il est heureux, si on peut dire, il est joyeux quand il est en relation avec moi, avec toi. Et ça, il l'a tellement désiré qu'il a donné son fils pour que ce soit possible. Parce que là, il y avait le péché, il y avait nos fautes, et ça crée comme une barrière. Et pour que cette barrière tombe, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit accompli, c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus, qui était lui-même rempli d'amour, comme Dieu, comme son Père, il a accepté le rejet. Il a accepté la critique. Il a accepté l'humiliation. Il a même accepté la mort pour ça. Pour que je puisse avoir cette relation avec Dieu. Et quand tu reconnais Jésus comme ton sauveur, non seulement tu es aimé, mais tu es aussi pleinement accepté par Dieu. Et tu peux être comblé d'amour en lui parce qu'il t'accepte comme tu es. Tu peux venir même dans ton imperfection, même si tu sais que tu as des choses à améliorer. Tu peux venir parce que de toute manière, si Jésus est ton sauveur, tu n'es plus condamné. Il t'accepte tel que tu es. Comprendre et vivre l'amour de Dieu fait que le regard de Dieu est plus important que le regard des autres. Ça signifie que tu n'es plus dépendant du regard des autres. Tu n'as plus fondamentalement besoin d'être approuvé, d'être aimé, d'être accepté. Parce que Dieu, là, te remplit de son amour. Et sa joie, maintenant, au-delà de la relation qu'il a avec toi, c'est de te voir honorer Jésus. C'est de te voir valoriser Jésus, qui a acquis ce salut pour toi. C'est de te voir glorifier Jésus. Sa joie, maintenant, à Dieu, c'est de voir les talents qu'il a mis en toi s'exprimer pour que son nom à lui soit élevé. La joie de Dieu maintenant, c'est de pouvoir agir au travers de toi pour que les gens qui t'entourent s'approchent encore plus de lui. C'est cette vision spirituelle qu'on est appelé à avoir. Et ça n'est possible que dans la mesure où le Saint-Esprit agit en nous. Alors je vous invite à baisser vos têtes, à vous recueillir, à repasser dans vos cœurs ce qu'on a partagé ensemble ce soir. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse vraiment remplir nos cœurs de son amour. Que s'il y a un doute, s'il y a un malaise par rapport à l'amour que Dieu te porte, que ce doute puisse totalement s'évanouir. qu'il puisse vraiment venir ce soir remplir ton cœur et que tu sois convaincu que c'est un Dieu d'amour. Parce que ça va t'apporter une sécurité intérieure que tu trouveras nulle part ailleurs. T'auras plus peur d'être rejeté. Tu seras pas obligé d'essayer de te faire remarquer pour te faire accepter et pour avoir le sentiment d'être aimé par les autres. Parce que Dieu va te combler par son esprit, par cet amour, la conscience de cet amour. On n'aura pas besoin de se réfugier derrière les apparences. On n'aura pas besoin là de chercher à nous valoriser au travers de notre service, de ce qu'on fait pour Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, je te demande vraiment que tu envoies ton Saint-Esprit ce soir. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous convaincre. Je sais que ce n'est pas mes mots qui pourront le faire. Je sais que ce n'est pas mes paroles. En elles-mêmes, elles n'ont aucun pouvoir. Mais au travers de ce qui a été partagé, au travers de ces chants, au travers de la louange et au travers de ces moments de méditation qu'on a pu avoir autour de ta parole, mon souhait, c'est que le Saint-Esprit agisse pour que nous soyons tous convaincus de ton amour, qu'on ne reparte pas en ayant un quelconque doute, mais que tu viennes nous remplir et que tu viennes nous combler ce soir. S'il te plaît, par ton esprit, agis profondément. Tu peux trouver les chemins de notre cœur. Tu peux nous venir mettre cette certitude de la profondeur de ton amour. Seigneur, viens le manifester, Seigneur, en cet instant. C'est ce que je te réclame au nom de Jésus. Que ton esprit vienne et descende sur nous. Que tu puisses ouvrir les écluses des cieux, c'est vrai. Pour que ton esprit répande cet amour dans nos cœurs. Et qu'on soit fort de cet amour. Et que ce soit cet amour qui nous amène à exprimer nos dons et nos talents. Que ce soit cet amour qui nous amène à glorifier ton nom, à vouloir l'élever dans tout ce que nous faisons. Quels que soient les aspects de notre service. Quel que soit là où tu nous places, Seigneur, que nous soyons en mesure d'exprimer cet amour, en mesure d'exprimer ta puissance par ton esprit, par les dons que tu nous as donnés, par les dons que tu nous as communiqués. Seigneur, garde-nous de la religion. Garde-nous d'être centrés sur nous-mêmes. Garde-nous de répondre à nos besoins en agissant pour toi. Mais apprends-nous, Seigneur, et guide-nous ce soir par ton esprit pour que nous regardions à toi, que nous soyons centrés sur toi. Et pas sur nous-mêmes. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Agis par ton esprit. Oh, dans la Seigneur.